Bonjour à tous. La sécheresse, ben j'ai préparé hier, hein, aujourd'hui c'est fini. Et la famine menace la survie de la descendance d'Abraham. Mais Joseph installe ses frères en Égypte. Le peuple d'Israël s'installe en pays de Gozen, au nord-est de l'Égypte, pays propice à l'élevage grâce aux eaux du Nil qui irriguent les terres et produisent des fourrages en abondance. Génération après génération, les descendants d'Abraham s'intègrent dans le pays d'Égypte, mais ils restent en marge de la culture et de la religion des Égyptiens, mais servent de plus en plus de main-d'œuvre bon marché, corvéable à merci. Exode 1, versets 12 à 14, nous lisons. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Et voilà tout un peuple réduit en esclavage, et qui semble néanmoins devenir une menace pour le pouvoir égyptien. Pharaon demande la mise à mort à la naissance des bébés garçons des descendants d'Israël. Les perspectives sont sombres. Aucune liberté d'aller et de venir, uniquement le dur labeur, la menace de mort et la peur en permanence. Et pourtant, Dieu, dans son alliance, avait promis à Abraham, Genèse 12, versets 2 et 3, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu tient ses promesses. Dieu est un Dieu de rédemption. Même dans l'Ancien Testament. La grâce rédemptrice de Dieu est déjà en action dans l'Ancien Testament. Lorsque Adam et Ève se révoltent et consomment le fruit défendu, Dieu sanctionne durement, mais la vie reste possible. Lorsque la méchanceté des humains se répand sur la terre, Noé, dans son arche avec ses animaux, survivent. Lorsque Sodome et Gomorre avec leurs habitants sont détruits, Dieu fait grâce à Lot et quelques-uns de ses proches. Lorsque la situation des Israélites en Égypte devient insupportable, Dieu, dans sa grâce, suscite Moïse pour conduire le peuple vers une nouvelle liberté. Dieu se révèle dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. La punition n'est jamais la fin de l'histoire. La rédemption et la grâce, la perspective d'une vie meilleure, sont toujours présents dans le texte biblique, au-delà de l'épreuve en cours. Ce matin, je vous propose de lire Exode 20, les versets 1 à 17. Vous savez de quoi il s'agit ? Exode 20. Exode 20. Les 10 commandements. Exode 20. 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, Dieu unique, pas de fabrication d'idoles, pas d'utilisation du nom de Dieu à mauvais escient, respect du jour du repos hebdomadaire, respect des parents, respect de la vie, respect de la relation sexuelle exclusive dans le cadre du couple, respect de la propriété privée, respect du témoignage conforme à la vérité, respect de soi-même en ne convoitant pas ce qui ne nous appartient pas. Pour tous ceux qui ont eu l'occasion de recevoir un enseignement religieux chrétien, cette liste nous est tout à fait familière. Tu ne pas, a marqué nos esprits et notre cœur, et cela a contribué à développer une compréhension du Dieu de l'Ancien Testament, légaliste et sévère, surtout que le dernier commandement fait appel à nos pensées profondes, nos pensées cachées, connues simplement par notre cœur. Au cours de notre enfance, de notre adolescence et même de notre vie d'adulte, nous avons forcément joué avec les limites de ce qui était permis ou pas. Dieu a mis en nous la connaissance du bien et du mal. La mémorisation de la liste des 10 commandements contribue à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. On peut en faire une interprétation simplement légaliste avec la sanction qui accompagne le non-respect du commandement. Donc je reprends les commandements et je vous fais la sanction qu'on retrouve dans d'autres passages de la Bible. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, sinon, Exode 22, verset 20, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux sera voué à l'extermination. Tu ne te feras point d'image taillée, sinon, Deutéronome 27, verset 15, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain, sinon, Lévitique 24, verset 16, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera. Pour celui qui ne respecte pas le sabbat, Nombre 15, verset 36, c'est l'histoire d'un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat, il a été présenté à Moïse, et toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Honore ton père et ta mère, sinon, Exode 21, versets 15 et 17, celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ne commets pas de meurtre, sinon, Exode 21, verset 12, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Ne commets pas d'adultère, sinon, Lévitique 20, verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ne vole pas, sinon, Exode 21, verset 16, celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Ne porte pas de faux témoignages, sinon, Deutéronome 18, verset 16 à 21, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Si tu convoites le bien d'un autre, tu t'exposes à une sanction, comme Akab qui a convoité la vigne de Naboth. Roi 21, verset 19. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Le Nouveau Testament fait écho à ces 10 commandements et les reformule, par exemple. C'est souvent des versets qui sont sortis un petit peu de leur contexte,
Mais c'est une indication de ma Bible qui a des commentaires, donc je vous les donne dans l'ordre où elle les a donnés. Donc c'est des reformulations de ces 10 commandements. Donc le premier, acte 14, verset 15, c'est l'apôtre Paul qui présente le Dieu vivant devant les prêtres de Jupiter à Lystre. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Pour le deuxième commandement, 1 Jean 5, verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Pour le troisième, Jacques 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Pour le quatrième, c'est Marc 2, verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Corinthiens 6, verset 9, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Colossiens 3, verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Éphésiens 5, verset 3, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Voilà une approche légaliste, c'est la loi, et celui qui ne respecte pas ces lois s'expose à des sanctions terribles jusqu'à la mise à mort. Mais Dieu est un Dieu de rédemption et de grâce, et même dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons déjà mentionné. La prise de conscience du péché, l'attitude de repentance, la crainte de l'Éternel ont, la plupart du temps, évité l'exécution de la peine prévue. Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre, sa mort sur la croix, si nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, nous permet de bénéficier du pardon de nos péchés. On pourrait s'arrêter là, pour ce matin, et passer à côté de l'intérêt même de ces textes de l'Ancien Testament. Allons un peu plus loin. Dans les premiers chapitres du livre de l'Exode, l'auteur rappelle, et puis il y a quand même 19 chapitres avant, que Dieu a permis la sortie de l'esclavage en Égypte, et le peuple est actuellement en marche vers le pays promis. Le pays que Dieu donne aux descendants d'Abraham. Ce peuple fait d'individus, de famille, de tribu, était différent des autres peuples du fait de sa relation privilégiée avec Dieu. Sa mission était de constituer une nation qui devait s'organiser politiquement, économiquement, militairement pour être en bénédiction pour les autres nations. L'Égypte ancienne, puissante militairement et parfaitement païenne du temps des pharaons, n'était pas l'exemple à imiter, même si dans le désert, certains Israéliens étaient tentés de reconstituer des pratiques égyptiennes avec le veau d'or, par exemple. Le pays de Canaan, avec ses différents chefs de tribus qui possédaient la terre en toute souveraineté et honoraient les dieux de la fertilité, les Baals et les dieux et les Astartés. Ce n'étaient pas des bons exemples également. Israël, à l'aube de devenir une nation souveraine installée sur une terre que Dieu donne à son peuple, doit s'organiser. Pour les 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui se présente et qui parle. Avant d'être le Dieu qui fixe la loi, les règles et les sanctions, il est le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, de l'esclavage, de la maison de servitude. Avant d'être le Dieu qui ordonne et qui sanctionne, il est le Dieu qui libère de l'esclavage. Il est le Dieu de l'alliance faite avec Abraham, le Dieu qui a créé la terre qui lui appartient. Au verset 12, l'auteur de l'Exode rappelle que c'est Dieu qui donne le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Ces commandements, ordonnés par Dieu lui-même, ne sont pas là pour prouver aux hommes et aux femmes qu'ils sont incapables de se tenir correctement. Ils sont là pour nous expliquer que si on rentre dans le projet de Dieu pour l'humanité et que les uns et les autres respectent toutes les prescriptions, la vie de tous les jours sera meilleure. Et amènera d'autres personnes à se poser les bonnes questions
et chercher à connaître le projet de rédemption et de restauration de l'humanité entière pour toutes les nations. Ces commandements ont été donnés avec une échelle de valeur. Les premiers commandements concernent Dieu lui-même. Il est unique. Il ne veut pas que l'homme fabrique des idoles et son nom ne doit pas être utilisé à mauvais escient. Si le peuple d'Israël avait pris à cœur ces principes, beaucoup de souffrances, de violences auraient été évitées. La perte du pays et l'exil à Babylone étaient la conséquence de l'abandon de ces commandements et la tolérance au culte idolâtre des peuples voisins. Le respect du jour du repos, chaque semaine, est un commandement qui concerne Dieu et la famille. Le travail nécessaire pour survenir aux besoins matériels de notre corps ne doit pas accaparer toute notre énergie. Ce jour de repos a été institué et donné par Dieu pour son service et pour que la famille puisse se retrouver. La famille, c'est l'intergénérationnel, le respect des aînés, l'honneur qui doit être rendu à ceux qui nous précèdent ou nous ont précédés. En leur temps, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, et Dieu promet au verset 6 de faire miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Sans le respect de la vie de l'autre, c'est le chaos sur terre. C'est un sujet central, le respect de la vie. C'est à Dieu et à lui seul qu'appartient le pouvoir de donner et de reprendre notre vie. Cette vie est néanmoins liée à la sexualité et la procréation se fait en principe dans la fidélité du couple. La conquête du pays de Canaan par le peuple d'Israël a donné lieu à un partage de territoire pour que chaque tribu, chaque clan et chaque famille puissent posséder une surface à mettre en valeur pour subvenir aux besoins de leur famille. Chacun devenait propriétaire de biens matériels acquis par son travail et le vol était interdit. La vérité finit toujours par être mise à jour. Le mensonge et le faux témoignage ne font que saper la confiance nécessaire pour que les rapports humains évoluent vers plus de maturité. Nos pensées profondes, nos aspirations, notre capacité à nous motiver pour agir ne doivent pas être polluées par la convoitise. On peut rêver, et certains de nos rêves peuvent se réaliser. Il ne sert à rien de simplement convoiter ce que le voisin possède. Une échelle de valeur donnée au peuple d'Israël juste avant la conquête du pays promis pour que Israël puisse se démarquer de l'Égypte qu'ils viennent de quitter et se démarquer des nations cananéennes qu'ils vont affronter et conquérir. Où en sommes-nous aujourd'hui dans notre société, dans notre pays, avec cette échelle de valeur? L'immoralité, la cupidité, le mensonge dans le monde politique et les médias sont largement tolérés, même s'ils sont dénoncés quelquefois. Le respect de la vie humaine dans nos sociétés reste très ambigu. Nous avons tous été appelés à sauver des vies en restant confinés lors de l'épidémie de corona, et en même temps, une partie de la société revendique le droit à décider par soi-même du moment où cette vie doit s'arrêter avec le débat sur l'euthanasie. Dans le monde occidental, les familles sont en souffrance. L'individualisme prend le dessus et on s'en accommode. Et Dieu, est repoussé en dehors de la pensée et des valeurs des gens. En France, la laïcité mal comprise a pour conséquence une terrible méconnaissance des textes bibliques et de l'art religieux qui en parle, dans lesquels Dieu parle et se révèle aux humains. Parler des 10 commandements aujourd'hui est profondément contre-culturel. Et pourtant, l'Église est appelée à tenir son rôle dans le plan de rédemption. Nous sommes appelés à poser les signes du royaume de Dieu sur terre. Nous sommes appelés à être des influenceurs dans la société et dans le monde pour être source de bénédiction pour toutes les nations de la terre, comme c'était le rôle d'Israël avant l'avènement de l'Église. Pour conclure, les 10 commandements, c'est assez basique. Pas trop difficile à comprendre, et cette liste de choses à faire et ne pas faire était enseignée aux enfants. Cette loi de Dieu ne nous a pas été donnée pour nous rendre la vie compliquée, voire impossible. Mais cette loi nous a été révélée pour nous apprendre comment nous comporter, comment simplement vivre sur terre pour que Dieu soit honoré. La loi de Dieu vise le bien des hommes et des femmes qui vivent sur terre. Cette loi propose une échelle de valeurs.
Dieu en premier, la famille en deuxième, la vie, y compris la sexualité et nos besoins matériels en dernier. Un docteur de la loi demande à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi ? Et Jésus répond brillamment et sans hésiter. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, en premier. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les 10 commandements ont été donnés pour nous éclairer, nous guider sur la voie de l'amour inconditionnel et total pour Dieu et pour nous guider sur la bonne manière d'aimer notre prochain, puisque nous sommes appelés à vivre ensemble et pas chacun dans son coin. L'Église, avec un grand E, la communauté des enfants de Dieu, le monde chrétien dans sa diversité, devrait se réapproprier cette échelle de valeurs qui découle des 10 commandements, pour que les signes du royaume de Dieu deviennent nettement plus visibles dans ce monde contemporain, sans but et sans repère. Amen.
Amen.